D'accord. Oui, donc j'étais représentant pendant 20 ans, à raison de 50 000 km par an, ce qui est une petite moyenne pour la profession. Et donc je payais moi-même mon carburant. Donc par conséquent, il a fallu que je conduise de manière très raisonnable. Et au lieu de consommer plus de 5 litres aux 100 km, j'ai consommé 4 litres et demi. Hein, j'ai trouvé ce résultat-là sur l'affichage de consommation moyenne de ma voiture. Donc sur 20 ans, 50 000 km par an, eh bien, j'ai économisé 5 000 litres de gasoil.
Voilà un bon exemple de sobriété à travers la réduction de la vitesse.
Donc c'est
Merci.
pour ça que c'est assez surprenant que au moment où la vitesse devait être limitée à 80 km/h sur toutes les routes départementales, le gouvernement ait fait machine arrière et puis qu'une bonne partie des départements ait relâché aussi et soit revenu à 90.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut... Autre commentaire, autre remarque. J'ai peut-être été un peu vite en amenant tout ça, ou qui veut prendre la parole ou bien faire une remarque?
Je suis Jérôme Dion, je suis président de l'association nantaise pour les déplacements et l'environnement à Nantes. Donc j'assiste à cette réunion. Je suis également un urbaniste spécialisé dans les transports. J'ai un peu une fonction de. Experts, voilà. Donc, il faut que je parle plus fort. Donc, tout ce qu'on a vu là, c'est extrêmement intéressant. En termes de réflexion personnelle, moi, je suis tout à fait d'accord avec tous ces objectifs. Je suis conscient de l'urgence qu'on a à absolument engager la décroissance de nos consommations d'énergie. Effectivement, une des questions va être celle de la mise en œuvre des priorités, de ce qu'il faut faire en premier, de ce qui peut attendre un petit peu. Il y a un très très large champ de questionnements à porter là-dessus. Donc j'espère que des intervenants ou autres vont pouvoir aller là-dessus durant cette soirée. Voilà, pour l'instant. Quelles sont les activités? La NDE est une association qui travaille sur les transports à Nantes et qui est surtout concentrée sur les transports en commun. Voilà, on peut avoir un regard sur les politiques de déplacement à autres, voitures, aménagement de voirie, mais on est surtout concentré sur la question des transports en commun, bus, tram et ferroviaire un petit peu. Voilà.
Oui, donc Thierry Plébert du collectif Fernand. Donc c'est un collectif qui s'est monté, qui regroupe des syndicats, des partis et des associations, donc dont le collectif Transport, ou je pense la NDE, la FNOT, enfin voilà, la CGT, la CFDT, différents partis qui sont, disons, orientés plutôt à gauche, des associations comme ATAC, etc. Donc on s'est monté parce qu'on avait différentes difficultés, hein, une difficulté nationale justement par rapport à l'urgence climatique, à savoir que les politiques de transport sont pas à la hauteur de cette urgence. Et donc les politiques nationales, on a parlé du fret ferroviaire, c'est un exemple malheureux, mais qui aujourd'hui n'avance pas. Et on peut parler aussi de l'évolution des transports de voyageurs et des orientations. C'est un sujet aujourd'hui aussi qui n'avance pas, ni au niveau national, ni au niveau des orientations régionales, puisqu'on devrait avoir un nouveau volant du contrat de plan, du volet mobilité du contrat de plan, qui devrait être signé avec des orientations pour la mobilité, qui devrait être bien plus en avance que ce qui est envisagé pour l'instant. Donc, et localement, on a aussi des difficultés, puisqu'on a besoin de développer l'étoile ferroviaire et d'offrir des solutions aux habitants de l'agglomération. Donc, on est face à une difficulté. Parce que dans la métropole nantaise, on n'utilise pas toutes les potentialités qui existent, alors qu'à notre sens, il faut développer tous les modes de transport de façon collaborative pour développer une multimodalité et prendre en charge depuis, à la limite, la sortie de la maison jusqu'au lieu de travail, au lieu d'hébergement, et fournir une alternative durable comme mode de transport aux usagers et aux habitants de l'agglomération. Donc voilà un petit peu la présentation de notre action. Donc c'est une action qui s'inscrit dans le long terme, même si médiatiquement, là, sur le court terme, on a été cet été sur le sujet du dossier de Nantes-État avec des fermetures de lignes, mais c'est une action qui a pour objet de s'inscrire sur du long terme et d'apporter des alternatives et des propositions différentes au niveau des transports, en particulier de la métropole et de l'agglomération, mais plus globalement de l'aire urbaine de Nantes, avec l'idée en particulier de développer un RER métropolitain avec une offre de transport qui soit beaucoup plus attractive pour les habitants et pour leur possibilité de déplacement à l'avenir. Donc sur une échéance qui est longue, qui n'est pas une échéance à 5 ou 10 ans, mais une échéance de très long terme. Voilà.
On n'a pas de réponse directe à cette question sur le TGV, là. Jérôme, tu voulais dire des choses effectivement au niveau de tes expériences sur les difficultés de mettre ça en place, ou bien ta vision de terrain, si tu veux, pour nuancer un peu ce que j'ai dit ou...
Oui, alors dans mon travail, souvent amené à discuter des possibilités de travailler, de changer de mode de transport, d'être dans la sobriété, de réfléchir un petit peu à ces pratiques de manière à pouvoir gagner. Alors aujourd'hui, dans des communes un peu rurales, je travaille surtout sur des communes de l'ordre de 5 000 à 10 000 habitants, l'objectif, on est encore assez loin de la question du CO2, de l'action du climat. Les gens en parlent un peu, mais c'est pas vraiment le sujet. On est plus sur travailler sur comment est-ce que le quotidien peut se dérouler le mieux possible sur des questions d'encombrement, d'utilisation des véhicules, d'accompagnement des enfants à l'école, de sécurité routière aussi. Donc, les motifs de sobriété vont surtout passer sur une manière de mieux vivre ensemble, d'utiliser les moyens de transport au meilleur escient, et éventuellement sur le partage, sur l'entraide. Le mot partage est souvent traduit sous la forme d'entraide, c'est un mot qui est plus utilisé. Donc il y a un terreau assez favorable là-dedans, on s'en aperçoit assez vite quand on pose des questions, quand on fait des concertations publiques, sur le fait que les gens n'ont pas forcément envie de rester dans leur bulle, d'agir de manière individuelle, individualiste, mais recherchent assez facilement des formes de mutualisation. Voilà, on va aller faire les courses de certaines vieilles personnes, on va accompagner les enfants du voisinage, chacun son tour. La question du covoiturage arrive en ce moment de manière de plus en plus prégnante. On s'aperçoit que les aires de covoiturage en campagne sont régulièrement remplies, voire saturées, il y a des véhicules un peu partout. Donc c'est quelque chose qui répond à une sorte de besoin implicite que les gens sont pas forcément à l'aise pour exprimer, mais qui correspond à une demande. Et la question de financière, voilà, il y a des problèmes d'argent dans ce pays, les gens n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et les questions de mutualisation répondent très très bien à ces manques de moyens qui sont perçus et qui, dans ces périodes d'inflation, peuvent devenir très très compliquées pour quantité de personnes. Donc, raccrocher ces expériences de terrain d'aujourd'hui à des ambitions comme ce qu'on vient d'écouter sur le scénario, ça peut être pour moi une difficulté de pouvoir faire franchir le pas. Comment introduire des réflexions de beaucoup plus grande ampleur, des ambitions beaucoup plus importantes dans des actes qui vont concerner la vie quotidienne de gens qui n'y pensent pas encore, qui peuvent être concernés parce qu'ils ont été par une certaine angoisse environnementale qui monte en ce moment, mais qui ne traduisent pas encore sous le fait qu'est-ce que je peux faire moi pour apporter mon écho, participer à ça, et qu'en termes d'une collectivité de 10 000 habitants ou 5 000 habitants, comment est-ce qu'elle peut agir pour véritablement continuer les initiatives individuelles, les instincts individuels.
Je peux réagir ?
Oui.
Ouais. Excusez-moi, ça va, vous m'entendez bien, il n'y a pas d'écho ? Oui, c'était pour vous dire que derrière nos déplacements, il y a énormément de choses qui relèvent de choix collectifs et pas de choix individuels. Et ça, en fait, on ne le perçoit pas trop dans la présentation de Virage Énergie Climat, parce que, en fait, les voitures qu'on utilise, où se trouve notre boulot, où se trouvent les personnes, enfin les enfants qu'on emmène à l'école, les moyens de transport en commun qu'on peut faire ou ne pas faire. Il y a énormément, en fait, il y a un principal levier qui est autour de comment on arrive à infléchir ou à influencer les décisions publiques, qu'elles soient locales, régionales, nationales, qui restent fondamentales. Parce que vous l'avez assez bien dit, en fait, les gens sont prêts à changer, ils veulent changer, mais la plupart du temps, ils sont contraints parce qu'ils ont investi à la campagne, parce qu'ils ont mis 20 000 balles dans leur bagnole, etc., etc. Je peux témoigner parce que je suis dans un scénario encore pire. Je suis actuellement aux États-Unis où tout est construit autour de la voiture. L'infrastructure des villes est faite de manière à ce que tout se fasse en voiture. Et c'est encore plus difficile ici de faire marche arrière, même si demain tout le monde devenait écologiste chez les Américains. Donc voilà, c'était aussi pour apporter plus une réaction qu'une contribution et poser une question à Virage Énergie Climat qui, depuis 10 ans, en fait, à proposer ces scénarios et de savoir comment ils s'étaient accueillis au niveau au moins des élus régionaux. Est-ce qu'on peut avoir des petits retours d'expérience, pas d'expérience, mais des retours de comment votre message est reçu au niveau des politiques régionales et qu'est-ce que ça a permis d'influencer ou pas, si vous pouvez mesurer ça. Merci.
Disons, quand on a fait ça marche. Quand on a fait notre scénario il y a une dizaine d'années, on a pu effectivement rencontrer quelques élus au niveau de la région. Ah, c'est intéressant, on va étudier ça. On a participé à des réunions comme le SRADDET, Schéma régional aménagement, développement durable, équilibre des territoires, groupe de travail sur les transports. On a fait des propositions. On ne peut pas dire que la région des Pays de la Loire soit la plus motrice au niveau de nouvelles formes de déplacement. Après, il y a des choses comme le comité 21 et le GIEC régional qui ont repris des propositions. Ça fait un nouveau rapport. J'ai pas l'impression que Christelle Morançais ait été largement influencée dans ses décisions. La question rejoint pas mal d'autres choses, c'est que des propositions, il y en a. Quand on arrive à un niveau de responsabilité politique, on se rend compte qu'il y a souvent, pour pas dire un blocage, les gens traînent les pieds en se disant, oui, mais vous comprenez, il faut quand même ce qu'on appelle l'attractivité des territoires, faut aménager les routes et les grandes routes dans les milieux ruraux. Donc il y a toujours des arguments pour nous dire, bah, écoutez, c'est intéressant, mais grosso modo, on attend un petit peu, quoi. Donc je pense que la question, c'est que maintenant, tout le monde, enfin beaucoup de gens se rendent compte que sobriété, rouler moins vite, covoiturage, enfin autre type de véhicule, ce sont des idées qui sont passées dans l'opinion publique. Maintenant, la réflexion sur les 110 km/h il y a 2 ans de la Convention citoyenne du climat, zéro. On en a reparlé un peu dans la sobriété versus Macron, zéro. Donc on se rend compte que les propositions de style négawatt qu'on a repris ici, ou même d'autres collectifs, genre Alternativa ou d'autres, ces propositions existent. Certaines rentrent dans le débat public et montrent que l'opinion publique est relativement prête, mais ça n'est pas encore traduit dans les décisions passées ou à venir, malheureusement, quoi. D'autres remarques ou questions, ici ou parmi les auditeurs?
Oui, est-ce que je peux intervenir?
Attendez, il y a quelqu'un au niveau du Zoom. Oui,
Oui,
monsieur
voilà.
Lecourt, oui.
Oui, au niveau de la région, effectivement, il y a un vrai problème parce que les dernières lois proposaient que l'artificialisation des sols, c'est-à-dire l'élargissement, la multiplication des routes et puis les lotissements et autres qui automatiquement font augmenter les transports, donc cette artificialisation devait être diminuer de 50% en 2030 pour arriver à zéro en 2050. Et la région a dernièrement demandé une dérogation pour ne pas arriver à 50% en 2030, mais à 34%. Donc on voit bien que là, la région freine des deux mains, ou des quatre fers, si on peut dire. Merci.
Est-ce que vous entendez ceux qui sont au loin? Non, on parlait effectivement de l'efficacité des voitures. Vas-y, je répète. 3 litres, la Lupo. Si, si, on a vu quelques exemplaires, mais effectivement, entre guillemets, la mode ou la pub n'a pas été par rapport à ça. Actuellement, on nous vend des SUV qui consomment plus, et en même temps, on nous dit sobriété. Donc, on retombe dans cette question, c'est la démarche des individus ou des groupes, et à côté, le rouleau compresseur ambiant, on n'est pas dans le bon sens, quoi. On parlait de la Lupo, la petite voiture Volkswagen qui a existé, et on disait que ça n'a pas été une réussite commerciale, quoi. Est-ce qu'il y aurait une volonté au niveau européen de remettre en place un projet de voiture économe, un peu de budget, un peu d'intelligence, et puis…
À mon avis, ce n'est pas sûr, puisque tout le monde part vers la voiture électrique. Donc,
attends, parce qu'il y a quelqu'un qui… Monsieur Lecourbe, oui.
Oui, voilà, oui, je pense que le projet Lupo ne va pas revenir à l'ordre du jour du fait qu'aujourd'hui, tout est parti sur la voiture électrique.
On parle d'un véhicule électrique très léger, deux places, combien, quel poids ? 400-500 kg, et qui serait effectivement motorisation réduite et donc disponible, quoi. Citroën, quoi. D'autres témoignages la question était sur le fait que la voiture électrique rapporte moins à l'État. Personne ne parle de ce moins… de ces moindres recettes sur l'État. Actuellement, le budget au niveau essence et taxes sur les produits pétroliers est important, et il y a donc un manque à gagner pour l'État. Donc effectivement, c'était le manque de débat sur cette question-là. Une personne est en train de dire que comme l'État est en train de nationaliser EDF… Attention, revenons sur un débat sur les transports. On pourra faire un débat sur l'électricité. Oui, le remplacement. Voilà. Ouais. Oui, le remplacement de l'essence par l'électricité, l'EDF est en faillite, donc ce sont nos impôts qui, par l'intermédiaire de la nationalisation, qui vont compenser le manque à gagner pour ça, quoi. Ouais. D'autres réflexions, notamment sur la notion de sobriété au niveau des transports, puisqu'on a repris un peu, je dirais, le slogan médiatique actuel pour introduire les notions de sobriété et d'économie d'énergie, quoi. Ou bien… Jérôme, toi, la vision que tu avais, c'était le rapport avec les collectivités. Comment est-ce que les mairies s'emparent de ces questions et…
La sobriété, il y a quelque chose de très intéressant. C'est la notion de la ville du quart d'heure. C'est quelque chose qui a été développé déjà depuis quelques temps, peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui réfléchissent depuis longtemps. La ville du quart d'heure, c'est la ville où le besoin de déplacement est beaucoup réduit en temps, parce que tout est à disposition à proximité. Cette proximité fait que on a beaucoup moins besoin de voitures, de déplacements motorisés, et qu'on peut essentiellement faire l'essentiel de son activité quotidienne à pied, ou en transport en commun, ou en vélo, mais des modes extrêmement peu nuisants. C'est quelque chose, c'est une ambition qui est en train de passer dans les mœurs. Alors, pour ne prendre que l'exemple nantais, c'est un mot qui revient en permanence dans les discours des élus. Chaque nouveau projet de nouveau quartier, c'est Nantes qu'on construit beaucoup. Voilà, la ville du quart d'heure est là, la proximité est là, les mots sont là. C'est pas forcément traduit dans les faits, dans le sens où on construit beaucoup de quartiers d'habitat, mais où il n'y a pas forcément les commerces nécessaires. Il peut y avoir les services, il y a souvent les écoles qui sont là, c'est déjà bien, mais on a assez peu de commerces, on a surtout assez peu d'emplois, et en gros, la ville du quart d'heure, on n'y est pas encore. Mais c'est une notion qui est en train de passer, et on est là dans la droite ligne de la sobriété, de la diminution des besoins. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Par contre, on n'est pas sur du court terme, on est sur du moyen-long terme. La ville aujourd'hui, le cœur initial de la ville du 19e siècle, était déjà une ville du quart d'heure, on en a l'exemple. Paris était une ville du quart d'heure, par exemple, tous ces quartiers et sa densité. Le cœur de Nantes est une ville du quart d'heure. Tout ce qui s'est fait depuis les années 50 ne l'est pas du tout. L'ambition d'aller habiter en campagne, on est encore plus loin. Par contre, les nouveaux quartiers, les nouvelles densités qui se mettent en place et qu'on essaie petit à petit de promouvoir prends l'exemple de Nantes, mais c'est un peu toutes les villes françaises et européennes sont un peu sur le même mode hein, maintenant. Là, par contre, on a un espoir là-dessus, de réduction des besoins de déplacement, et notamment des besoins de déplacement motorisés.
Attends, je répète la réflexion était la ville du quart d'heure en zone dense, c'est possible, mais réduire les distances entre logement et travail semble plus difficile, notamment quand on est autour de la ville ou en milieu rural, quoi. Et la question dans la salle, c'est aussi que cette distance augmente parce qu'effectivement, oui, allez-y, le prix de l'immobilier augmente, les gens vont de plus en plus loin. Donc la question était, est-ce qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire, on avait un certain type de vision à moyen terme. Comment reprendre une vision comme ça, notamment vous vous mettez avec des emplois en ville où il y a déjà beaucoup d'emplois, vous avez plus d'impôts, vous allez mettre vos emplois dans la campagne où il y a moins d'emplois, vous avez une aide au niveau fiscal. Il y a peut-être des mécanismes fiscaux pour rééquilibrer le fait que les entreprises, au lieu de s'entasser autour du périph à Nantes, iraient peut-être dans des zones rurales. Je ne sais pas si des choses comme ça sont possibles. Il faut bien sûr une volonté politique, il faut une volonté fiscale, il faut accompagner les entreprises dans le fait de se mettre, non pas toujours au plus près, mais éventuellement bourg intermédiaire ou bien…
J'ai acheté une maison à Grandchamp-des-Fontaines, donc à 30 km de Nantes. Il va travailler tous les jours, théoriquement, il va travailler tous les jours à Nantes et son épouse, idem, va travailler à Nantes tous les jours. Il est évident que s'ils peuvent télétravailler un jour, deux jours ou trois jours par semaine, ce qui est relativement possible avec leur boulot, il est évident que ça va réduire fortement le problème, quoi. Mais ce n'est pas généralisable à tous les types de travail, bien sûr.
La réflexion était sur comment réduire la distance domicile-travail. Si on veut pouvoir changer de travail de temps en temps, faut-il changer de logement en même temps ou faut-il être dépendant d'un style d'habitat lié à l'entreprise, quoi. Et la difficulté pour les couples, c'est de faire ça au niveau de deux types d'emplois pour deux personnes, quoi. La question des transports actuellement, c'est aussi le fait qu'on a l'Ukraine, Poutine, le gaz, le pétrole, on serre les manettes. Et la question, c'est peut-on se servir de cette crise pour élaborer des transitions à moyen et long terme? J'ai pas mis dans ce diaporama, mais j'en fais un autre, où je commence en mettant Poutine, climat, même combat, pour se passer des énergies, quoi. Et la question, c'est effectivement actuellement, comment sur nos… Soit si on prend en compte les recommandations du GIEC, c'est le fondement de virage, comment passer du problème à court terme de ces énergies à la vision à moyen et long terme de réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre, quoi. Et c'est là la question difficile, c'est comment au niveau politique introduire dès maintenant des leviers qui vont beaucoup plus loin, quoi. Qui veut intervenir ou proposer une… commentaires ou réflexions?
Oui, ben je…
Roman?
Oui, je peux prendre la parole?
Attendez, il y a Roman qui voudrait intervenir, qui n'est pas intervenu encore, je crois, non?
Ok.
Roman, non.
Ah, pardon, excuse-moi. Non, d'accord.
Non, je viens d'arriver, je débarque, alors non.
D'accord. Ben, monsieur Lecourt, allez-y.
Oui, en 73, quand on a eu le problème pétrolier et le choc pétrolier, donc… il n'y avait pas vraiment d'inquiétude au niveau du climat, du moins c'était une opinion très minoritaire. Et aujourd'hui, par contre, cette inquiétude commence à diffuser largement dans la société. Donc je pense que c'est ce levier-là qui va peut-être permettre que la sobriété soit enfin à l'ordre du jour.
Et je me permets d'ajouter quelque chose, Alexandra, mais il y a un outil qui existe… qui est dérivé de la fresque du climat. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association. Et donc, en fait, l'association La Fresque du Climat, c'est l'association mère. Il y a plusieurs associations qui se sont créées un petit peu sur le même principe. Donc, c'est un atelier de 3 heures. Et en l'occurrence, il y en a un qui s'appelle La Fresque de la Mobilité. Et donc, pendant 3 heures, On essaye d'identifier à plusieurs, donc c'est un atelier qui réunit 6 à 7 personnes. Comment ça marche les transports, quels sont les modes de déplacement qu'on privilégie en ce moment, quels sont les impacts de ces différents modes de transport sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça permet vraiment d'avoir un panorama un peu global. Et ensuite, on étudie un peu des cas qui présentent des personnes en fait dans leur situation de vie. Donc, il va y avoir, par exemple, un urbain, quelqu'un qui vit plutôt en milieu rural. Et en fait, les participants sont amenés à proposer un peu des solutions à chaque cas fictif. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça fait réfléchir. Et ça fait aussi que chacun se met à se poser des questions sur son propre mode de vie. En tout cas, ça permet de diffuser un peu une culture commune au travers d'un atelier qui dure 3 heures sur ces questions. Donc voilà, cet atelier, on peut le faire en ligne. Peut-être qu'il y en a qui sont organisés aussi à Nantes. Mais voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez en tête. Ça peut aussi être fait dans des écoles, auprès des élus, vraiment à l'image de la fresque du climat.
Bon, merci pour cette information. Je connaissais la fresque du climat, mais pas la fresque des transports. Il serait possible que vous passiez un contact, une adresse de site ou quelque chose qui puisse nous permettre de garder le contact.
Oui, alors je peux vous mettre dans le chat le nom de l'association.
Oui, moi,
et puis éventuellement un nom de contact, ouais, carrément. Oui, carrément.
Il y a un lien vers un site.
Oui, je vais vous mettre ça dans le chat. C'est le site de l'association, ça s'appelle la fresque de la mobilité.
La fresque de la mobilité, ouais.
Ouais.
Ah, c'est super, ça. Ouais. Très, très bien, parce que ça permet de faire le lien avec plein de gens qui ne sont pas forcément concernés, de pouvoir faire de la pédagogie. Et...
Moi, ça m'intéresse énormément. Ouais.
Ah, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup.
Denis, là, je reviens sur ce que disait Philippe tout à l'heure en parlant d'efforts collectifs. Enfin, la mesure, les mesures de sobriété ont aussi, au-delà de l'échelle individuelle, l'échelle collective. Et on est un scénario Pays de Loire, et donc l'échelle collective, on l'a vu, c'est de la région, il y a aussi les communes et les agglos. Et dans ces structures-là, il y a des élus. Il y a des élus, et autour d'eux, il y a des citoyens. Donc je pense que là, le premier niveau d'action envers ces gens, enfin, envers ces élus, en matière d'aménagement du territoire, c'est de les sensibiliser à ces démarches de sobriété et des modèles qui peuvent être appliqués, comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a entendu tout à l'heure, pour aller vers cette sobriété dans les déplacements. Donc, il y a un gros travail, je pense, à faire, connaissant un petit peu le milieu des élus, ayant été moi-même conseiller municipal, je pense qu'il y a un énorme travail à faire envers nos élus, de formation, de sensibilisation, aux choses qui sont envisageables immédiatement au niveau local et non pas que attendre que les États-Unis et la Chine diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est ce premier échelon-là qui me semble important de sensibiliser parce que on a depuis des dizaines d'années un petit peu fait l'autruche. Et donc cette culture manque.
Thierry du collectif Fernande. Donc c'est un travail qu'on a commencé envers un certain nombre d'élus. Donc ça, c'est des rencontres qu'on a en cours. Bon, ceci étant, on a une pratique avec des associations déjà de rencontres depuis un certain nombre d'années et on s'aperçoit que c'est pas suffisant. Et donc il faut à la fois ce travail vers les élus, mais il faut aussi un travail citoyen. Donc il faut qu'il y ait qui sentent que ça vienne de la base, quoi, et qu'il y ait une demande, une appétence pour un changement des mobilités. S'il n'y a pas cette pression, si on va dire, amicale, sympathique, l'inertie est là, et donc on a dit en introduction qu'il fallait on avait 3 ans pour commencer à agir. On m'a dit que j'étais impatient, mais effectivement, je suis impatient, quoi. Et donc, par exemple, dans le domaine ferroviaire, une décision qu'on prendrait aujourd'hui, elle serait au mieux efficace dans 5 ans. Si on dit on finance une action, c'est dans 5 ans. Donc, il faut à la fois convaincre les élus, mais aussi, il faut aussi qu'il y ait une pression citoyenne qui s'exerce et que collectivement, on exprime cette demande de changement de mobilité auprès des élus. À mon sens, c'est les deux actions qu'il faut mener dès à présent.
Enfin bon, je peux parler là, puisque je vois que
attends,
personne…
Dominique, attends, il y a quelqu'un. Dominique, il y a quelqu'un dans la salle, là, pardon. Alors ça, oui, alors la question était effectivement, plutôt que de remettre en cause un mode de transport, la question est d'utiliser un mode de transport qui fait beaucoup de kilomètres d'un coup, notamment l'avion. Là, pour moi, ça revient effectivement à la sobriété. C'est la question effectivement, est-ce qu'on choisit d'avoir des vacances loin ou des vacances proches? Et moi, je suis partisan de dire que oui, il y a des actions structurelles, politiques, globales, mais il y a aussi une réflexion personnelle. Et tant que les gens se diront, je veux aller en vacances, ramener ma vidéo avec le soleil, ben, on n'arrivera pas. Les gens vont rester à vouloir faire comme les catalogues de tourisme au niveau de l'avion, et les gens continueront à prendre l'avion. L'avion ne dépend pas du gouvernement. L'avion dépend de chacun de nous. Il y a beaucoup de choses au niveau sobriété qui dépendent de nous. On connaît tous malheureusement des gens qui continuent à prendre leur bagnole alors qu'ils ont le tramway. Moi, je suis un avocat de la sobriété individuelle de plus en plus. Il y a les mesures structurelles, mais je pense que la sobriété individuelle a sa part importante dans les questions de transport. Ouais, l'avion de Bernard Arnault, on va lui faire sauter les réacteurs, quoi. Mais c'est la caricature, quoi. C'est comme les joueurs de foot qui se mettent à rigoler quand on leur propose de faire ça, quoi. Et ça montre simplement que le débat sur l'avion, on n'aurait jamais vu un journaliste poser une question à un club de foot il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Maintenant, il était normal que la question soit posée. Et c'était la réponse des fouteux qui était anormale, quoi. On n'a pas encore de restrictions sur l'avion, mais ça commence dans le truc comme ça. À propos de l'avion, il y a des propositions que je trouve très intéressantes qui sont le rationnement. On a droit chacun de faire tant de milliers de kilomètres traduits en énergie ou en CO2 en fonction d'un plan global au niveau français. Monsieur, on sait que vous avez pris l'avion il y a 3 ans, eh ben vous n'irez pas l'été prochain, vous attendrez encore 2 ou 3 ans. Et c'est par définition égalitaire, parce que si on se contente de dire on met des taxes, les plus riches paieront les taxes. Si on se contente de dire vous pouvez vendre votre budget avion, je vais vendre mon budget avion à un riche qui lui prendra l'avion. Donc la question d'un rationnement extrêmement précis. Quand on prend un billet d'avion, j'imagine qu'on est enregistré 5 ou 10 fois dans les compagnies d'avion, au niveau de la douane et tout ça. Madame, monsieur, vous avez pris votre billet d'avion, vous attendrez telle ou telle période. Bien sûr, au niveau d'un jeune ou d'un étudiant, il peut y avoir un crédit pour une opération style Erasmus ou aller faire un voyage humanitaire, mais un et pas 10 ou 15 à la fois. Donc, je pense que la notion de rationnement sur un budget carbone au niveau avion est une idée qui commence à avancer un petit peu. Je dis, ça commence un petit peu, quoi. Jérôme, tu dis que non. Enfin, c'est toute la question d'une carte carbone. Enfin, on parlait effectivement rationner l'avion, puis rationner la voiture. C'est la notion d'un budget carbone individuel. Peut-on y arriver? Faut-il y arriver? L'intérêt aussi, c'est que les riches polluent et consomment beaucoup plus. Donc, si effectivement on se dit en France, on est en moyenne à 10. Les plus pauvres sont à 3 ou 4, les plus riches sont à 20 ou 30. Si on dit la moyenne se met à 4 ou 5, ben c'est les riches qui vont devoir diminuer. Donc là, on arrive à rejoindre la justice climatique et la justice sociale. Là, c'est intéressant. On peut faire la proposition à Macron, on verra bien, quoi. Déjà qu'il a du mal à taxer les super-profits. Bref, oui, la réflexion était le comptage va se mettre à prendre appui sur des éléments numériques qui amènent une pollution. Je pense pas que ce soit énorme parce que une fois que les compagnies d'aviation, si elles ont envie, mettent le fait que vous avez pris l'avion dans la même base de données, interroger la base de données si elle est en France, il y a une consommation numérique, mais elle sera bien moindre que les 2 ou 3 tonnes de gaz à effet de serre d'un vol en avion, quoi. Donc effectivement, on mettra un peu de numérique, mais pour diminuer. La question des libertés, les gens disent oui, mais on peut plus voyager. Chacun est libre de voyager. Mais avec les conséquences que ça a en termes d'énergie, de gaz à effet de serre et de climat. C'est un peu sur la route, vous êtes libre de prendre votre voiture, vous n'êtes pas libre de rouler à contresens. Vous êtes libre de prendre votre voiture, vous n'êtes pas libre de griller les feux rouges. Donc les libertés sont aussi en fonction de ce qu'on a donné aux uns par rapport aux autres, quoi. Donc là, c'est… Donc on a échangé sur l'avion, est-ce qu'il y a d'autres échanges sur la notion de sobriété ou d'action plus collective? Voilà. La question était, La question était, je répète pour les gens, la question était un tramway rapporté au poids d'une personne, c'est environ 900 kilos. C'est à peu près une petite voiture pour une personne. Donc la question était, le tramway, c'est aussi quelque chose qui est, en même temps, le tramway se déplace pas forcément très vite, il a un aérodynamisme qui est un peu mieux qu'une voiture, et en même temps, d'accord, donc effectivement, c'est pas l'aérodynamisme, c'est quand même le fait aussi que le tramway, quand il est plein, prend quand même beaucoup moins de place qu'un cortège de voitures. Bon, il y a un peu des...
Ouais. Oui, un autre élément à apporter, un autre élément à apporter, c'est que le tramway dure 40 ans, tourne, je sais pas, 10 heures par, enfin, en moyenne 10 heures par jour, alors qu'une voiture tourne une heure par jour et dure 15-20 ans. Au niveau de des matériaux et matières premières consommées, on n'est pas du tout dans la même, à la même échelle.
Bon, on est en train de faire un cours de physique sur le 1,5 de MV2 et R égale KSV2 au niveau de la résistance de l'air. Voilà. La question est que dès qu'on se déplace, on consomme de l'énergie. Par définition, l'énergie, c'est ce qui permet de modifier la matière et donc de déplacer d'un point A à un point B, quoi. Donc, on revient à la question, c'est comment réduire nos besoins de déplacement. Et ça, effectivement, si on prend en compte l'urgence de réduire les gaz à effet de serre, même si on a d'autres formes d'énergie, le premier facteur, c'est effectivement pourquoi négawatt, leçon 1, c'est la sobriété. Comment réduire nos besoins de déplacement? Démarche individuelle et comment est-ce que les collectivités vont nous aider en ce sens-là, au niveau équipement, au niveau aménagement du territoire, quoi. Ouais. Réflexion, remarque. Tu voulais dire quelque chose? Ah ouais, ouais. Donc effectivement, c'était la sobriété, c'était le besoin, l'usage, quoi. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est que Jean-Claude, tu as enregistré la causette, donc on va la mettre sur le site de Virage. Moi, je peux mettre mon diaporama à disposition en format PDF si des gens veulent le reprendre. Et puis, on essaiera de se renseigner sur la fresque de la mobilité aussi au niveau style d'intervention et de formation en petit atelier, là. Alexandra, est-ce que vous êtes toujours là? Vous avez évoqué la fresque de la mobilité. Avez-vous un lien ou un site internet pour les personnes qui voudraient se renseigner sur ce type d'atelier, fresque de mobilité?
Oui, je vous l'ai mis dans le chat.
Ah, alors ouais. Il est pas.
Mais le message, faut remonter un petit peu dans la conversation.
Dans le chat discussion ou le chat question-réponse?
En fait, je crois que j'ai envoyé tous mes messages à quelqu'un sans faire exprès. Je recommence.
Hop. Ah, d'accord. C'était peut-être en. D'accord. Si vous envoyez.
Voilà, là, vous devriez voir mon.
Tout à fait. Message. Merci.
Ouais.
Merci, merci.
Super.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il est probable qu'au niveau de Virage, on fera une rencontre de ce type-là sur l'habitat et la rénovation. Le troisième mardi d'octobre sera quand? C'est le mardi 18 octobre, quoi. Là aussi, rénovation, sobriété, économie d'énergie, avec le scénario de Virage et probablement d'autres personnes d'associations qui travaillent sur ces sujets. On mettra le lien... On trouvera fresque de la mobilité, on peut participer, organiser un atelier, quoi. D'accord. D'autres questions, soit sur le chapitre transport, soit sur Virage, énergie, climat en général?
Si moi je peux préciser un point institutionnel actuellement. Oui, toutes les intercommunalités des Pays de la Loire ont pris une compétence transport, qui est complémentaire, qui se veut complémentaire de celle de la région, sauf deux, hein, sauf une intercommunalité en Sarthe et une en Vendée, je crois. Donc, ça veut dire qu'elles sont actuellement en train de discuter avec la région pour contractualiser dans des contrats opérationnels de